I have a dream.
Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi pour l'émission de Paroles Politicales.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'émission Paroles Politicales tous les jeudis de 11h à midi sur Fréquence Mistral. Moi je m'appelle Jake et je serai avec vous pendant une heure pour découvrir le mouvement des droits civiques des Afro-Américains pendant le XXe siècle. L'émission sera bien accompagnée de la musique, comme toujours, et donc on va avoir des artistes tels que James Brown, Marvin Gaye et Bob Dylan qui vont être écoutés parmi cette heure. Je voulais tout d'abord un peu parler de la situation à la début de la mouvement des droits civiques. Donc, vous connaissez sûrement tous peut-être l'histoire de l'esclavage. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la vente de la peuple noir de l'Afrique par les Européennes qui sont ensuite vendus aux États-Unis pendant les 17e, 18e et 19e siècles. Eux, ils n'avaient aucun droit et devaient faire ce que disaient leurs propriétaires. Et même après l'abolition en 1865, les Noirs n'avaient toujours aucun droit face aux Blancs. Le grand problème, c'était en fait que les Blancs avaient beaucoup trop à perdre en les accordant des droits égaux. Et donc, pour cela, le status quo elle est resté la même durant cette période. Il y avait aussi énormément de problèmes durant cette période, c'est-à-dire la formation du KKK, le Ku Klux Klan, en 1865, pour faire peur, tabasser et lyncher les Noirs. Les lois de Jim Crow ont aussi fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont été mis dans les États du Sud, rejeter les droits égaux pour les Noirs. Alors, ils avaient beaucoup de ségrégation des bâtiments exclusivement pour les Blancs, comme par exemple les parcs et les écoles. La pauvreté, c'était aussi un problème majeur pour les Noirs, parce que les Noirs, ils occupaient les pires jobs, et beaucoup de femmes noires étaient servantes pour les Blancs. Donc, ils étaient vraiment tout en bas de l'escalier. Et finalement, il y avait la provocation de la part des Blancs aux Noirs, et ils ont fait des émeutes et attaque les Noirs comme on avait vu en Detroit en 1943. Pour commencer l'émission, on va commencer avec un morceau de la part de Marvin Gaye, What's Going On.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Right now.
What's your name?
Alors, graduellement, les Noirs, ils ont commencé à un peu plus contester leur statut secondaire dans la société. C'est-à-dire qu'en 1909, même, c'était le National Association for the Advancement of Colored People, qui était, une association pour but d'améliorer la situation de la peuple noir. Et elle était inventée pour opposer la discrimination, surtout devant les jurys. Il y a aussi, durant les années de 1920 et 1930, la Renaissance Harlem, qui avait fait une célébration de la culture noire, en déclarant que la noire est belle. C'est un peu pour augmenter la morale, et pour un peu éviter ce que les noirs voient comme un désavantage par la couleur de peau. En 1942, il y avait la formation de corps, c'est-à-dire le Congrès pour l'égalité raciale. Et même on avait vu pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Américains noirs qui ont participé, ils étaient aussi courageux que les soldats blancs. Et donc, le président à la temps, président Truman, il a accordé le droit aux Américains noirs de se battre à les côtés des Américains blancs après 1948. Finalement, on va finir avec Martin Luther King, qui lui était le fondateur de la conférence des directions des chrétiens du Sud en 1957. On va entendre un peu plus sur Martin Luther King plus tard dans l'émission, mais on va lancer maintenant un morceau, Respect Yourself. Respect Yourself par The Staple Singers, qui elle était une chanson classique du genre soul. Elle était diffusée à la fin du 1971 dans l'album Beatitude, Respect Yourself, et elle était écrite par Luther Ingham et Matt Rice, dont Ingham était frustré avec le monde. Il avait dit à Rice que le peuple noir devait apprendre à se respecter eux-mêmes. Donc voilà le nom des chansons. Maintenant, on va parler de la début de la mouvement des droits civiques dans l'Amérique. Donc, comme on avait vu tout d'abord, il existe toujours des très grandes disparitions entre les blancs et les noirs qu'il faut bien les souligner. Et c'est pour cette raison qu'on peut identifier certains événements qui ont réussi à bouleverser les dynamiques sociales. Donc, tout d'abord, les blancs et les noirs, ils étaient ségrégés pour toutes sortes de choses, comme par exemple les restaurants, les écoles, les coiffeurs. Et l'idée, c'était que le niveau de qualité des services, elle, était la même pour les deux groupes, qu'elles soient blancs ou qu'elles soient noires, mais il fallait qu'ils soient séparés toujours. Donc, c'est la séparation, mais l'égalité, entre guillemets. Les premières oppositions à cette status quo, c'était le 1954, quand Monsieur Brown, il avait réussi à faire entrer son enfant noir dans une école blanche avec de l'aide de la NAACP, une association qu'on avait parlé juste avant la chanson Respect Yourself. On avait aussi fait une petite référence à la Deuxième Guerre mondiale avec président Truman qui avait permis à les Noirs, les Américains noirs, les soldats noirs, de se battre à côté des soldats blancs. Et un événement très grand, c'était en 1955 avec Rosa Parks qui refuse de céder son siège sur le bus à un homme blanc. Donc normalement, quand quelqu'un de blanc entre dans le bus, les Noirs, ils doivent céder leur place et se mettre derrière. Mais Rosa Parks, elle a refusé de faire cela. Et les citoyens noirs l'ont supporté, mené par Martin Luther King, bien sûr. Et ils ont refusé d'utiliser les bus jusqu'à ce que la mairie abolit les bus ségrégés, ce qui était fait une année après. On va maintenant écouter un titre qui date de 1965 par The Impressions.
There's a train a-coming. You don't need no bag. just thank the Lord.
Voilà, un morceau qui était passé, c'était le morceau People Get Ready, c'était par The Impressions. La chanson gospel, elle était écrite et composée par Curtis Mayfield, qui lui a commencé à créer de plus en plus de contenu political durant son carrière. Mayfield dit qu'il prend toujours ses valeurs d'après ce qui est les valeurs de son église, et qui croit qu'il n'y a pas d'endroit vraiment à se cacher et qu'il faut toujours agir toi-même. Donc c'est une très bonne représentation en fait de la réveil de la peuple noir face à cette disparition, face à cette inégalité. On veut maintenant parler un peu de Martin Luther King, un des personnages les plus importants dans le mouvement des droits civiques. Donc il avait aidé et il était président lui-même de The Southern Christian Leadership Conference, elle-même liée avec l'Église aussi. Donc l'organisation, il avait pour objectif de la non-violence, comme étaient les valeurs de Martin Luther King, ce qu'il est célèbre dessus. Et l'importance de l'Église, c'était vraiment de pouvoir organiser, de unir le peuple noir pour rendre des protestations beaucoup plus effectives, beaucoup plus organisées et pour avoir des conséquences beaucoup plus fortes au final. À l'inverse, on avait aussi une autre voix qui, elle, devient connue, et c'était celui de Malcolm X. Donc lui, il était un des deux hommes les plus puissants parmi les musulmans noirs. Mais ce qui lui diffère de Martin Luther King, c'était que lui, il encourageait la violence envers le peuple blanc, la police, bah tous, si la force de l'ordre, ils n'étaient pas capables eux-mêmes de mener la justice à les problèmes des Noirs. Alors, il représentait un côté un peu plus radical, on va dire, de la mouvement des droits civiques, mais il reste toujours une voix très importante durant ces temps-là. Il y avait aussi l'élection de Kennedy, président Kennedy, en 1960, sous un manifesto fortement lié avec les droits civiques et les inégalités sociales aussi. Mais il n'avait pas fait grand-chose sur cette promesse jusqu'à les années de 63. Mais c'est à ce moment-là qu'il décide finalement d'agir sur ce qu'il avait promis. Donc, il définit la crise des droits civiques en étant morale, constitutionnelle et légale. Et il promet aussi de mettre en place une législation, la législation des droits civiques, pour rendre de l'égalité à tout citoyen, pour mettre fin à la ségrégation. Mais le problème pour Kennedy, c'était qu'il avait aussi des problèmes pour passer ces législations, telles que le support du Congrès. Donc il fallait passer par le Congrès pour finalement passer une législation. Mais s'il essayait de passer cela, il perdrait sûrement les démocrates dans les États du Sud, qui eux opposent à cette législation, et il a vraiment besoin de leur support pour passer les autres issues dans son manifesto, et aussi pour gagner l'élection de 1964, parce qu'on peut être élu deux fois aux États-Unis. Il y avait aussi une petite chose qui s'appelle la guerre froide, qui était elle aussi dans son période la plus délicate. Et mais s'il faisait rien, c'est sûr qu'il y aurait plus de violence, comme était vu en Birmingham. Donc c'est un vrai dilemme pour Kennedy ce qu'il devait faire, s'il devait passer la législation pour les droits civiques ou s'il devait essayer de passer d'autres choses dans son manifesto. Donc, on va enchaîner avec une chanson, We Shall Overcome, la chanson de proteste, qui est devenue une anthème clé dans les droits civiques.
We shall
Et voilà une chanson qui était faite par Carawan, qui était le meneur de la chanson fondée sur l'activisme non-violence. C'était une chanson qui est vite devenue un des préférés parmi le mouvement de droits civiques. Elle était chantée à des manifestations, les festivals et les concerts aussi. Vers mars 1963, il y avait le marché sur Washington qui elle était proposée par Martin Luther King, au début rejetée par John F. Kennedy, mais finalement John F. Kennedy décide de supporter le marché sur Washington vu que King lui permet d'aider un peu avec l'organisation de la marche. Le pouvoir que King cède à Kennedy était critiqué par Malcolm X, car lui, il voyait que Kennedy, bah, il croyait plutôt que Kennedy rendrait moins efficace la marche sur Washington d'un peu diluer le message de les bah, des discours des intervenants, et c'est pour ça qu'il était déçu avec Martin Luther King pour avoir cédé ce pouvoir à Kennedy. Mais finalement l'histoire va la marche sur Washington plutôt pour l'emploi et la liberté comme un des grands succès, car elle était informative, bien organisée et non violente, la plus importante. Il faut aussi se rappeler que c'est ici que Martin Luther King va délivrer son discours célèbre « I have a dream » devant plus de 250 000 personnes.
Bonjour, je m'appelle Dark Vader. Venez au côté obscur et ensemble, on va écouter Jake et son émission Parole Politicale tous les jeudis de 11h à midi pendant l'été sur Fréquence Mistral. C'est mon émission préférée dans toute la galaxie. Ne me déçois pas.
Ok. Donc, il avait ensuite un ensemble des assassinats politiques dans un espace très court, des assassinats des personnages très importants pour le mouvement des droits civiques, qui commence tout d'abord avec l'assassination de Kennedy en le novembre 22 1963. Donc, président Kennedy, il est venu à Texas, un état du Sud, pour commencer à se préparer pour l'élection de 1964 qui vient le novembre après. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour voir le président dans sa voiture, mais dès que la voiture passait de Laney Plaza, un coup de feu pouvait être entendu et le président Kennedy était tué. Après cela, il y avait Lyndon Johnson qui lui était le vice-président qui lui vient de Texas. Il était avec Kennedy à ce moment et il a dû devenir président à ce moment-là afin de pouvoir prendre la place de Kennedy et de mener les États-Unis pour encore une année avant les élections de 64. Mais lui, par contre, il avait beaucoup d'amis qui opposaient les législations sur les droits civiques. Donc, pour lui, c'était pas non plus simple pour passer ces législations sur les droits civiques. John Coltrane, il avait écrit une chanson qui s'appelle Alabama. Et c'est celui-là que je veux qu'on écoute maintenant. Donc, dans les jours qui suivent la meurtre de Kennedy, Johnson, il montre des qualités de dérision sur les droits civiques que Kennedy n'avait pas montré durant son présidentiel. Donc, Johnson, tout d'abord, il va décider de prendre des risques parce que sans lui, la législation n'aurait pas passé. Et il voit des possibilités uniques liées à l'héritage de Kennedy avec la législation des droits civiques pour réveiller la population américaine, surtout la population noire. Et dans les jours qui suivent, Johnson enlève son veste et commence jour et nuit à travailler sur la législation. Donc, après avoir filé la liste des noms des républicains non décidés sur la vote à Martin Luther King, qui lui va les appeler pour les convaincre de voter pour cette législation, il arrive à atteindre la majorité qu'il lui en faut pour passer la législation au Sénat le 2 juillet 1964. Et il le signe en même temps. La deuxième plus grande assassinat durant cette période, c'était l'assassinat de Martin Luther King Jr., qui... lui, le leader des droits civiques. Donc, il a eu son fin de temps en Memphis, Tennessee, d'où il avait rejoint une marche pour les ouvriers non d'accord avec les salaires basses et les conditions de travail. Donc, il était tiré dans le cou sur le balcon de son hôtel et meurt en hôpital juste après avoir donné son discours. Et c'est cet événement qui a provoqué des perturbations civiques et de la violence partout. Mais, inversement, après cet événement, Lyndon Johnson, il avait décidé de suite de prendre la décision de téléviser le concert de l'infameux James Brown, un chanteur noir, qui fait un concert en Boston en même temps, voire deux jours après l'assassinat. Et il veut inciter les gens à rester chez eux pour regarder le concert au lieu de sortir dans les rues et de peut-être provoquer plus de violence et pour plus de sang, etc. Donc l'idée, elle a bien fonctionné au final et Boston avait vu encore moins de violence durant cette nuit, le vendredi, qu'elle voit sur tout autre vendredi soir normal. C'est bien maintenant qu'on va passer une des chansons de James Brown. C'est Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Yeah. Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, une chanson de funk performée par James Brown et écrite par un autre membre de son groupe, Alfred Ellis, en 1968. Donc, dans cette chanson, Brown, il veut adresser les préjugés envers les Noirs américains et il a besoin pour la responsabilisation plutôt noire. Le refrain du chanson, elle était performée par un groupe de jeunes dans les zones de Watts et Compton et était recordée par environ 30 d'entre eux à Los Angeles. Donc, la dernière des grands assassinats, c'était celui de Malcolm X. Donc, Malcolm X, c'était quelqu'un qui avait beaucoup à dire et c'était depuis longtemps que les gens pensaient que lui serait assassiné. Donc Malcolm X, il vient de savoir que Elijah Muhammad, l'autre musulman le plus puissant des Noirs, a eu des rapports hors du mariage. Il avait même 6 enfants, donc ce qui était interdit par sa croyance. Donc Malcolm X, il détestait cela et il commence à parler contre lui en public. Avant de finalement quitter la religion, avant de faire un voyage à Mecca, et c'est de là qu'il revient un peu moins radical d'après son voyage, mais finalement le 21 février 65, lourd de son discours, Malcolm X, il est tué par 3 de ses compagnons supposé motivé par sa provocation envers Elijah Muhammad.
Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral, les jeudis de 11h à midi, pour l'émission de Parole Politicale.
Donc finalement, on va parler de la passage des droits civiques, la législation elle-même, et aussi le mouvement contemporain de Black Lives Matter. Donc tout d'abord, la législation. Donc depuis le passage des droits civiques en 1964, il y a eu plusieurs changements conséquents qu'on avait. Par exemple, les droits de vote en 65, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discrimination envers les Noirs dans le contexte de la vote. Donc les Noirs, maintenant, ils peuvent voter. Il y a aussi une loi liée à le mariage interracial entre les Noirs et les Blancs en 1967, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de mariage entre deux personnes. Il n'y avait que plutôt le mariage entre deux personnes de la même couleur de peau. Et finalement, un grand succès, c'était la loi de 1968 qui rend illégale la discrimination raciale dans la vente des maisons ou d'autres domiciles. C'est-à-dire que de ne pas vendre à les Noirs juste parce qu'ils sont Noirs, c'est interdit maintenant. Donc c'est une très bonne chose. Ça, c'était en 68. Il y avait aussi de nombreux succès dans les secteurs de vie très variés, c'est-à-dire les écoles qui permettent maintenant que les enfants noirs aillent aux mêmes écoles que les enfants blancs. Le mouvement Noir et Belle, qu'on avait parlé tout au début de l'émission, et qui a pour but de rendre les Noirs fiers de leur couleur de peau. En 67, il y avait Carl Stockies, la première loi noire élue mairie. En 84, le Jesse Jackson qui tente lui de devenir le président des États-Unis. Et on connaît aussi des visages très connus de la part de Hollywood. Il y avait en ce moment des stars nouvelles qui commencent à émerger, telles que Eddie Murphy, le comédien, ou encore Will Smith qui est toujours présente sur les écrans. Et qui prennent leur destin en main. Et bien sûr, la plus infameuse de tout, c'était en 2008, le premier président noir des États-Unis qui était élu, président Barack Obama, et qui lui aussi d'ailleurs, il avait gagné sa deuxième élection en 2012 aussi. Il va finir vers la fin de cette année ici. Maintenant, on va écouter une chanson de la part de la grande Bob Dylan, The Times They Are A-Changing.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone, and if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the time they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, 'cause the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road's rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, 'cause the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slowest now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, 'cause the times, they are a-changing.
Énorme chanson de la part de Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. Une chanson qui a été écrite par lui-même et vient de son album du même nom de 1964. La chanson, elle a été écrite exprès pour essayer de provoquer de la changement social, ce qu'elle avait fait. Et depuis sa diffusion, elle a été très influentielle en changeant beaucoup d'avis envers la société. Par contre, il y avait des choses aussi non encourageantes depuis le passage de la législation des droits civiques en 64. Donc, dans les années 70, certains États ont refusé de payer le voyage scolaire pour les enfants noirs. De plus, il existe toujours des problèmes avec les logements malgré le passage de la loi de 68. Et plus de Noirs ont du mal à trouver des accords pour louer ou acheter des maisons. Il y avait aussi un événement très célèbre, c'était de O.J. Simpson, qui était accusé d'avoir tué sa femme, qui elle était blanche. Ce qui était intéressant, c'était que la majorité de la population noire pensait qu'il n'était pas coupable, mais la population blanche pensait majoritairement qu'il était coupable. ce qui démontre toujours que les disparitions sont bien présentes aux États-Unis. Un des événements les plus décourageants, c'était en 91 avec le jeune homme noir Rodney King qui était arrêté pour avoir excédé les limitations de vitesse et qui avait ensuite subi de la violence brutale de la part des policiers qui étaient filmés. Malgré que la vidéo ait été vue par la jury, le jury décide que les policiers ne sont pas coupables et cela provoque des émeutes en Los Angeles. Dans les années plus récentes, on voit une narration très familière qui s'est formée, d'où un policier blanc tire dessus et tue un homme noir. Cela avait déclenché des manifestations de la demande de la justice pour les victimes noires qui trouvent du mal à croire dans les systèmes judiciaires quand les policiers ne sont jamais acquittés de la crime qui pensent qu'ils ont commis. Ceci était le cas dans les villes telles que Ferguson, Charleston, Baltimore, et elle avait fini avec le slogan Black Lives Matter, les vies noires, eux aussi vaut. Et c'est-à-dire que les vies noires ainsi que les vies blancs, ils comptent beaucoup dans la société et qu'on ne doit pas oublier et ne cacher de ces événements. Donc la plus récente événement, c'était la vidéo qui propage sur Facebook d'où Philando Castile a reçu un coup de feu fatal tant qu'il cherchait dans ses poches pour son licence de conduite sans avoir mis aucun problème à la policier qui le surveillait. Pourtant, lui, il était tué. Et c'était le jour après, le 7 juillet, qu'il y a eu des protestes en Dallas pour Black Lives Matter. Et à la fin des protestes, Mika Xavier Johnson avait commencé à tuer 5 policiers pour prendre sa vengeance de la part de la peuple noir. Donc, on voit bien une intrigante confrontation entre les polices et la population noire dont aucun des deux fait confiance à l'autre. Finalement, la dernière chanson d'aujourd'hui, c'est « Oh Freedom », la chanson post-guerre civile et qui, elle aussi, est associée avec le mouvement des droits civiques.
Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free.
Over me.
Oh Freedom, la chanson post-guerre civile. Donc, il y a plusieurs versions de cette chanson, et il y a une d'entre eux, elle contient une quatrième strophe qui dit « No more Tommin », donc « Plus de Tommin », et où le mot « Tommin » veut dire « C'est un terme dérogatif pour la submission extrême de la part des hommes noirs envers la peuple blanc ». Donc, de dire ça, ça veut dire « Ne vous subisse plus extrêmement à le peuple blanc, vous êtes égaux, vous êtes la même ». Donc, c'est une bonne chanson pour finir l'émission. Merci de m'avoir rejoigné pendant cette heure sur Fréquence Mistral. Merci également à Emeline qui m'a aidé avec l'émission. La jeudi prochaine, je serai encore là de 11h à midi, direct avec une émission sur l'élection présidentielle américaine de 2016. Donc, je vous attends là-bas pour cette émission. Et bon week-end et bonne semaine à toutes et à tous. Et à jeudi prochain. Au revoir.
Merci beaucoup, Jake. À bientôt.
Merci, Emeline.
Bonjour, c'est Jake. Retrouvez-moi tout l'été en direct sur Fréquence Mistral. Les jeudis de 11h à midi. Pour l'émission de Parole Politicale.